RMC, entre les poteaux, Christophe Cessier.
Salut à tous, il était déjà la superstar du rugby français, il est désormais le maître du monde. Antoine Dupont, désigné ce vendredi meilleur rugbyman de la planète, statut auquel il a fait honneur ce week-end en réalisant une prestation de haut vol, encore une, avec le Stade Toulousain en Champions Cup. Difficile après tout ça de ne pas lui décerner le titre, non pas de frelon, mais bien de super frelon de la semaine, voire même de l'année, du siècle, du millénaire. Des louanges qui inquiètent, vous l'entendrez, son manager Hugo Mola, qui aimerait bien qu'on en fasse un peu moins avec l'Antoine. Il craint que son génie ne chope la grosse tête, a-t-il raison de s'inquiéter? On en débattra. Si Dupont et Toulouse ont fait honneur à leur statut de champion d'Europe, le week-end a été plus compliqué pour d'autres, notamment l'UBB, Castres et Clermont, battus d'entrée à la maison. Pour ces trois-là, la qualif est déjà compromise. Faut-il déjà passer à autre chose? On verra ce qu'en disent les poteaux et puis on s'intéressera au cas particulier de Clermont, l'ASM qui a connu des jours meilleurs. Enfin, dans notre rubrique French Cancan, on vous dira tout du programme de nos Bleus d'ici la Coupe du Monde 2023. Il reste 21 mois et 19 matchs pour arriver plein badin et décrocher la Coupe Web Ellis. De tout cela, nous allons débattre avec la fine équipe des poteaux, composée aujourd'hui de Denis Charvet. Salut Denis.
Salut messieurs.
Magnifique, une coiffure de jeune premier.
Mais c'est lavé les cheveux.
Il est magnifique.
Coiffure de Yorkshire.
Tout propre. Massicard, de retour parmi nous après une tournée triomphale. Ça fait 6 mois qu'il est en vacances, il est enfin avec nous. Ça va, Manu?
Bien sûr. Oui, c'est ça, allez-y, balancez.
C'est ce que nous a dit Léo la semaine dernière. Moi, je dis rien.
Léo qui était bien meilleur.
Il était très très bon, Léo.
Allez-y, choisissez votre camp. J'étais à Nevers, messieurs, pour remettre un Oscar midi olympique.
Prouve-le.
Et donc, je n'étais pas en vacances.
On joue donc au rugby à Nevers.
Ça, c'est un le mérite de Nevers, cet Oscar.
Exactement.
Et puis, évidemment, vous les avez déjà entendus, Wilfried Tampi et Jeff Paturo, les compères d'RMC.
Bonjour.
Salut
à tous.
Les mouches du coche. Comment ça va les garçons, en pleine forme?
Pas mal.
Nickel.
Pas mal.
En ce moment, il marche sur l'eau, je parle pas de Wilfried, et c'est pas moi qui le dis, mais son compère, Romain Ntama, qui est ébloui par la prestation d'Antoine Dupont avec le Stade Toulousain ce week-end face à Cardiff.
Quel essai pour le Stade Toulousain signé Pita Aki, mais sur une percée de qui au départ, mon cher Thibaut?
Antoine Dupont.
Allez,
le meilleur joueur du monde.
Évidemment, Antoine Dupont, une percée incroyable de la part d'Antoine Dupont. Oh Dupont, quel essai! Quel essai d'Antoine Dupont à l'instant! Il avait déjà fait des percées XXL dans ce match. Cadrage débordement raffut, là, à l'issue d'une touche. Oh là là, il est injouable en 1 contre 1. Antoine Dupont, à l'instant, il vient marquer le troisième essai toulousain.
Nouvel essai pour le Stade Toulousain qui déroule.
Encore une fois, un éclair de génie. Ça devient indécent, hein. Antoine Dupont, le geste qu'il fait là, dans les 22 mètres, la sortie du rock, passe au pied, complètement sur la droite du terrain pour Arthur Bonneval, qui marque le quatrième essai après Jelonche, après Aki, après Dupont. Magnifique essai.
Voilà, il montre que... il mérite quand même ce titre décerné hier. Hein.
Il marque un essai, il en offre un autre sur une passe au pied, il a fait des percées XXL encore une fois, c'est une menace permanente.
Ah oui, il a fait un excellent match, voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter, tout le monde l'a vu. Ce qui lui arrive en ce moment, c'est largement mérité de par son travail. Il marche sur l'eau en ce moment, donc on l'a encore vu aujourd'hui, donc voilà, c'est bien de l'avoir dans nos rangs.
Ah oui, c'est mieux, effectivement, c'est un sacré plus d'avoir Antoine Dupont dans...
C'est comme le PSG avec Mbappé, quoi.
Voilà, c'est un peu pareil. Impliqué donc Antoine sur les quatre essais du Stade Toulousain, et cela quelques heures seulement après avoir appris qu'il était donc désigné meilleur joueur de la planète.
Bon, on a l'impression... Ça fait 2 semaines qu'il le savait, je pense.
Mais... Oui, ça faisait un moment. Mmh. Mais bon, malgré tout, c'est quelque part, quand tu es récompensé comme ça, ça doit faire quelque chose. Et on a l'impression avec lui que les honneurs, les récompenses, ça lui passe au-dessus de la tête. Il est insensible non seulement à la pression, mais aussi aux louanges.
Faux.
Non, ah, non. Faux. Ah, Manu, faux. Vas-y, Manu. Bon, vas-y. Attaque.
Tu connais un joueur aujourd'hui qui serait insensible aux louanges et qui ne serait pas, qui n'aurait pas besoin d'exister et d'être reconnu par ses pairs. Antoine, qui n'a pas évidemment besoin de ça pour être bon. Et je crois, comme beaucoup, sensible à justement...
Quand tu lui as remis l'Oscar Midi Olympique il y a quelques jours, tu l'as senti touché, par exemple?
Ouais. Bien sûr. Et ça fait troisième fois où il est Oscar d'or, et première fois où il est Oscar Monde Midi Olympique, élu par l'ensemble de la rédaction et par les lecteurs aussi, il faut le souligner. Il était très très sensible à cette distinction. Je crois que il fait pas sa carrière là-dessus. Il sait tout ce qu'il doit au collectif, mais il fait ça compte pour lui, surtout qu'il
n'a
pas
encore gagné. Oui, mais ça compte
dans ce
que voulait dire Christophe. Peut-être Manu, c'est déstabilisé. Est-ce que ça change quelque chose, Christophe, dans ce que tu voulais dire?
Ouais, c'est
pardon.
Moi justement, je pense que c'est là où c'est un phénomène. alors il y a le phénomène du joueur, le joueur, mais après
ça lui coule dessus un peu,
c'est-à-dire qu'il absorbe tout, qu'il y reste le même, il n'a pas la grosse tête, pour le connaître un peu, c'est quelqu'un qui est vraiment la tête sur les épaules, qui sait ce qui lui arrive, c'est ça.
Non mais on est d'accord.
Alors, est-ce que ça va durer, parce que c'est très, quand même très perturbant, il a 25 ans
seulement, oui.
L'évolution était très rapide quand même, elle n'a pas été, bon c'est sur 4 ans, c'est fulgurant, c'est quand
mais
même...
Mais alors, Wilfried va nous raconter l'histoire d'Antoine depuis ses débuts dans quelques minutes. C'est vrai qu'il a été habitué à tout ça depuis tout petit. Chaque année, il est le meilleur de son club, le meilleur de sa catégorie, puis le meilleur de l'équipe de Toulouse, le meilleur de l'équipe de France.
Quand tu écoutes son frère ou premier entraîneur, tu comprends davantage le gars que c'est. C'est un gars qui a vécu son ballon dans les mains tout le temps et qu'en fait, et voilà, c'est sa vie. Sa vie, c'est... Mais avec l'humilité qui est la sienne, donc c'est ça qui est remarquable. C'est un phénomène. Alors, samedi, moi, il y a un truc qui m'a surpris en voyant le match, c'est que quelque part, il a envoyé au monde du rugby une image en me disant, regardez, vous êtes le meilleur joueur du monde, mais je suis meilleur joueur du monde.
Ouais, c'est ça.
Et en le regardant faire ce qu'il a fait, parce que tu dis, mais c'est quand même tellement facile ce qu'il fait, mais tellement dur, évidemment, mais quand tu le vois, tu dis, tout est facile. Et j'ai dit, quand même, il a le culot de nous montrer à tout le monde du rugby que c'est le meilleur du monde. C'est génial. Quoi. Enfin, moi, c'est un garçon qui m'épate tout le temps. Quoi. Ouais. C'est incroyable.
Alors, si les louanges ne sont semble pas vraiment l'émouvoir, même si on a compris avec Manu qu'effectivement, il est quand même ravi, c'est normal. Hein.
Non, mais il y a une forme de fierté, oui.
Ouais, ouais, tu peux être fier de ça et ça flatte ton ego. En revanche, on va l'entendre, son coach Hugo Mola n'apprécie pas tout ça, pas vraiment. Il a tenu à le faire savoir à l'issue du match face à Cardiff, justement.
Oui et non, parce qu'il y a des fulgurances à la Antoine qui n'ont pas attendu qu'ils soient meilleurs joueurs du monde pour les faire depuis 3-4 ans maintenant avec nous. Pour le coup, après, il y a quelques gestions de ballons délicats en début de match qui sont pas forcément bien gérées, ou en tout cas pas pour le meilleur joueur du monde qu'il est. Mais oui, après, on va pas s'étonner à chaque fois qu'Antoine Dupont joue. On va juste essayer de trouver des solutions pour que autour de lui, ça puisse aussi trouver des solutions quand les matchs sont cadenassés. Mais ça n'enlève rien, encore une fois, à la performance d'Antoine.
C'est normal, non ? Il est obligé de dire que tout n'est pas parfait, qu'il y a encore du travail, qu'il peut faire mieux.
Je pense aussi, ces petits messages, je pense aussi, c'est par rapport à son collectif. Parce qu'il a pas que des joueurs classiques ou anodins dans son effectif. Il y a aussi des mecs, on a entendu Romain Tamac qui veut prendre la lumière, certainement, parce que c'est des mecs qui veulent être les meilleurs. Et je pense aussi qu'il envoie quelques messages, Hugo Mola, pour préserver l'équilibre de son équipe aussi.
Mais je sais pas si vous avez vu le témoignage de François Cros quand même, qui est un garçon extrêmement lucide. Il dit, si on n'avait pas eu Antoine aujourd'hui, ça n'aurait pas été si facile que ça. C'est à quel point, alors qu'il y a combien, 32 points je pense, donc à quel point l'influence qu'a ce garçon sur son groupe, sur la dynamique, c'est ça qui est incroyable.
Wilfried, toi qui le côtoies quasiment au quotidien, en tous les cas toutes les semaines, tu es à Toulouse, comment il est vu par ses équipiers? Est-ce que c'est le petit protégé, ou est-ce que justement il suscite quelque part quelques petites jalousies? Comment ça se passe
non.
au sein du groupe?
Non. Pas de jalousie, mais c'est vrai voilà, le problème c'est qu'on Dupont, on en a plein la bouche entre guillemets depuis des semaines, et ça s'est intensifié avec ce titre hein, qui est avant, après, on demande aux coéquipiers, alors est-ce que tu penses que, qu'est-ce que vous en pensez, et c'est vrai qu'il y a des fois des réponses un peu plus laconiques. Je pensais à Romain Tamac, des fois il a tendance à nous dire, bah on a tout dit quoi un peu, et c'est vrai que c'est, mais à côté de ça, ils savent très bien avec qui ils sont. J'en discutais avec Cyril Baye la semaine dernière, lui il le dit, c'est la star du rugby français, et surtout ils sont contents de l'avoir, ils savent quelle force c'est pour leur équipe d'avoir ce joueur là donc voilà, ils sont tous derrière lui quoi, c'est il emmène tout le monde dans son sillage.
La prise de Melon, est-ce que ça pourrait ça pourrait le guetter, ou vous n'y croyez pas?
Il vient de la campagne, n'oublions pas, du rural.
Donc on va en parler,
mais surtout il a un environnement qui, il le dit d'ailleurs,
qui dégonfle rapidement les têtes.
Il a son frère, sa famille, donc il est.
On m'a raconté, Denis, la semaine dernière, j'étais à Castelnau-Magnouac, à son club. Peut-être pas chaque semaine, mais dès qu'il peut, il y retourne, parce qu'en plus ils ont restauré un domaine familial là où il y a des le domaine de Barta, ça s'appelle, c'est où il y a des réceptions maintenant, où ils vont en faire un domaine avec des locations, les choses comme ça, the place to be, peut-être à Castelnau-Magnouac, et surtout donc il revient très souvent, et on me disait que des fois il y a les entraînements de l'équipe première, ils mangent ensemble les mecs, et que Antoine Dupont vient et s'assoit au bout de la table et vient manger avec eux, avec les joueurs de rugby de Castelnau-Magnouac. Et évidemment, quand il y a des gens un peu extérieurs au club, ils font les grands yeux, ils disent ah oui, il est là, c'est lui, et oui, voilà, oui, parce que quand il revient, c'est Toto de Castelnau, comme on m'a dit là-bas, parce que c'est son surnom.
Mais donc, alors, rien que dans sa réaction, juste pour compléter, qu'on voyait vraiment qu'il faisait pas semblant, qu'il était vraiment content, ému de l'avoir ce trophée. Non,
mais simplement.
C'était assez simple, c'est une joie comme Christophe pourrait avoir quand il fait du bon travail, ce qui arrive une fois de temps en temps.
J'ai jamais reçu l'Oscar.
Est-ce que vous avez vu ses chaussures sur la photo?
Non.
Ouais. Et bah, il est en charentaise.
Il est en chaussons avec jaune. Une jaune là.
Ouais. Ouais, voilà. Donc,
avec tête de lion, je sais pas quoi.
Si
là,
tu
ouais,
pensais
ouais,
que le mec pouvait prendre la grosse tête.
Ou alors elles sont sponsorisées par quelqu'un peut-être.
Non.
Bon, alors justement, là tu nous as mis l'eau à la bouche, Wilfried. Raconte-nous, puisque tu es donc allé à Castelnau-Mahoniac la semaine dernière, ce petit village des Hautes-Pyrénées où il est considéré là-bas comme un véritable dieu vivant. Il n'y a pas à t'enfiler.
Bah parce que grâce à lui, on a mis ce petit village de 800 habitants sur la carte, tout simplement. Personne ne savait où c'était. 800 habitants et 120 licenciés, vous imaginez. Je vais vous faire comprendre que Toto, donc comme je l'ai dit, on le surnomme là-bas, était déjà le même à l'époque. On rappelle que c'est, encore une fois, pour suivre son frère Clément, qui a 3 ans de plus que lui, qu'Antoine est venu au rugby, hein, à l'âge de 5 ans seulement, même si 5 ans, on n'a pas l'âge encore d'aller à l'école de rugby. Mais à force d'user sa mère pour lui demander d'y aller, eh bien, elle a craqué dès le début, son premier éducateur, Jean-Philippe Guerrero, voit ses qualités.
Il était déjà malin, espiègle sur le terrain, comme en dehors d'ailleurs. Hein. Il sentait déjà les bons coups sur le terrain et il avait déjà une vivacité incroyable. Et il pouvait faire tout et n'importe quoi très jeune, quoi.
Au club house là-bas, il y a un mur qui est dédié à lui avec les photos et les maillots. Il y a une photo de lui à peut-être 6 ans avec une image d'attaquant. Vraiment, elle est incroyable cette photo. Mais à 9 ans, vous imaginez, il s'ennuie avec ceux de son âge, parce qu'il est tout simplement au-dessus. Il est donc surclassé en U11, mais déjà, il a une force hors du commun sur le terrain, même pour son frère Clément, plus vieux que lui.
J'ai un caractère quand même beaucoup moins fort que le sien, et donc je sais pas à partir de quel âge, mais un peu avant l'adolescence, il avait cette corpulence où il était petit, mais très trapu, très costaud, et puis lui, il lâchait jamais rien, quoi. Que tu sois dans le jardin, dans la chambre, dans le salon ou sur le terrain, c'était le même résultat, donc non, honnêtement, oui, il a toujours eu ce rapport un peu comme aujourd'hui, qui étonne, mais nous, ça nous étonne moins, parce que après, c'est l'exprime à un tel niveau, c'est différent, mais poids-puissance qui est quand même assez particulier.
Il partira à l'âge de 15 ans, pas très loin, direction le FC Auch à l'époque. C'est là-bas qu'au lycée, à l'internat, il se retrouve en chambre avec celui qui va devenir son meilleur ami, Anthony Gelon. Ils sont toujours colocs à l'heure où on se parle à Toulouse, parce qu'Anthony Gelon n'a pas encore sa maison. Le coup de foudre est expliqué justement par Gelon.
C'est sûrement nos origines, ils viennent d'une famille d'agriculteurs, moi aussi, et puis nos caractères se sont vite coordonnés, donc ouais, ça a été vite une amitié très forte. On est tous les deux humbles, on aime rigoler, enfin je sais pas, moi, c'est quelque chose voilà, qui est normal, assez normal entre nous, et on a une amitié forte grâce à ça.
Vous imaginez qu'ils étaient ensemble au lycée, ensemble à l'internat, et que la semaine dernière, c'est Anthony Gelon qui lui a offert son trophée de meilleur joueur du monde, qui joue ensemble en équipe de France. Quelle histoire quand même. Et ensuite, vous la connaissez, Castres, passant par l'équipe de France, Toulouse, Antoine va ébahir la France entière. Et c'est pas fini, selon David Daricarrère, l'entraîneur de Castres, qui l'a eu là-bas sous ses ordres à son arrivée en 2014.
Il est encore jeune et il va encore se développer, notamment au sens tactique et stratégique, notamment au sens de la gestion de ses efforts. Voilà, il en sera, tous les ans, il sera encore plus performant, moi j'en suis sûr.
Ça va être dingue. Alors, il a tout raflé cette année, en tout cas dans son village, on n'en revient toujours pas. Retour à Castelnau-Mahoniac, à l'image d'Émilie Rousse, sa cousine qui est responsable de l'école de rugby.
C'est incroyable, c'est super quoi, démarrer si petit à Castelnau, finir meilleur joueur du monde, ben, c'est super quoi, pour lui, pour le club, pour nous, c'est incroyable.
Voilà, s'ils veulent sortir encore d'autres Antoine Dupont en rugby français, il n'y a pas de problème, on prend.
Incroyable parcours. La voix de son frère, c'est la même.
C'est la même,
C'est incroyable.
Ouais, la même diction.
Exactement la même. Bon, il est donc la star du rugby français, la star du rugby mondial. À qui on pourrait le comparer justement parmi les grandes figures du rugby français? Ça a été qui les grandes stars? Ça a été Rive, Blanco,
Michalak,
Chabal, Spanguero. Ouais, est-ce qu'il y en a un qui ressemble?
Personne.
Hein,
non.
Alors il y en a un qui n'était pas une grande star, mais qui était un joueur incroyable. C'était Max Barrault et Manu, non?
Oui, mais enfin, c'était pas une.
Mais oui, non, c'est pas une. Oui, mais
tu trouves qu'il ressemble
international dans le. Oui.
Pour moi, il ressemblerait davantage à Fred Michalak dans l'ascension de.
Ah, dans l'ascension, très, très, oui, jeune, médiatique, très, très tu veux jeune. Dire, oui, bien
mais
sûr.
Pas dans la personne.
Non,
je comparais par rapport aux joueurs, mais
il a du
Gallion, il a du Max Barro. Après,
il fait partie de la trempe. C'est Spanghero, Rive, Blanco,
ouais. Oui, bien sûr.
Et Michalak. Point. Il y en a eu que quatre. Hein.
Non, Chabal.
Médiatiquement,
pas dans le jeu. C'est pas du tout la même chose.
Oui, mais on parle de. Ça dépend de nos combats.
Ouais, mais même médiatiquement, il touche.
Chabal, c'est immense. Médiatiquement.
Oui, mais public qui n'est pas le.
Mais jamais indiscutable sur le terrain, Chabal.
Ah oui, non, mais on parle pas
jamais indiscutable. Il y a un mélange des deux, non ?
Je pense.
Serge Blanco était quand même notre plus grande. Enfin, il y a Jean-Pierre Rive avant aussi, mais Serge Blanco, mondialement.
C'était le rugby, c'était l'essence même du rugby. Après, Jean-Pierre, c'était.
Mais tu le retrouves chez Antoine,
le combat. Oui, oui, exactement. Oui, peut-être par rapport à Serge Blanco, oui. Pourquoi pas.
Très bien. Quel avenir pour Antoine Dupont, Jeff, on en parlait hier.
Toulouse.
Mais c'est sûr. Vous ne partagez pas. Alors, on a bien compris cette semaine.
Il va prolonger.
Jaminet, Rouma qui va signer à Toulouse.
C'est pas encore bouclé, mais ça va se faire.
Non, mais il est en contrat jusqu'en
2023. Et l'idée,
il va signer longuement.
Comme le staff.
Il va falloir qu'il
casse prolonger sur la durée.
Il va falloir qu'il casse à tirelire, le staff de Toulouse.
Ils vont la casser.
Oui, ils vont la casser.
Ils sont obligés.
Comment tu fais sinon
Je ne vois pas comment ils vont le garder. Sincèrement,
où est-ce que tu veux qu'il aille sinon?
En Angleterre.
Non.
Est-ce que sportivement c'est plus intéressant d'aller en Angleterre? Financièrement,
c'est le seul intérêt de l'Angleterre,
c'est qu'il pourrait être marquee player et gagner autant qu'il voudrait.
Non,
mais il n'ira jamais. En France, il n'y a aucun club qui peut rivaliser avec le Stade Toulousain.
Moi, je pense qu'il a 25 ans, que dans 3 ans, la question se posera. Moi, je vous le dis, je pense que dans 3 ans,
après la Coupe du Monde,
si les champions du monde, ça sera. Alors là, ça sera.
Denis, on va rassurer les supporters toulousains. Oui. Ils auront encore Antoine Dupont pendant pas mal d'années.
Mais alors là, je ne suis pas sûr du tout. Le rugby moderne.
Tu veux dire qu'à transfert maintenant et tout.
Mais prouve le contraire. Non, mais je ne suis pas.
Il a tout ce qu'il faut à Toulouse. Je vais vous expliquer avec la famille, avec le sportif.
Il va rester. Il sera peut-être amené à tenter une aventure à l'étranger, ou au Racing, ou à Paris.
Le problème de l'étranger, c'est pas comme le football. Tu veux aller où? En Angleterre ou au Japon? Au Japon, sportivement, ça n'a aucun intérêt.
Le seul intérêt, c'est
l'Angleterre, être marquee player à la rigueur pour lui. Mais c'est pas du tout d'actualité, mais pas du tout.
Mais attention, Lorenzetti aurait pas envie, et pourrait pas s'offrir un jour à Japon.
Attention,
à un moment donné, tu pourras pas suivre. Hein. Le Stade Toulousain, à un moment donné, ils vont être confrontés quand même à des enchères, que tu le veuilles ou non. Donc, moi, je ne suis pas sûr.
Je crois qu'ils trouveront une solution. Oui. Et s'il y a un effort à faire.
Croix, qu'elle sera son PEL.
Non, mais ça passera par Antoine Dupont.
Il y a un tabac aussi.
Au moins pendant 3-4 ans. Après, on verra. Laissons passer 2023-2024. Parce qu'il y a les JO. Hein. Dans l'avenir d'Antoine, il y a la stabilité jusqu'aux JO. Après, on verra.
Oui, voilà. À 29-30 ans, je pense qu'il tentera une aventure. Voilà, je pense que le gamin, il sera intéressé.
S'il lance 5 ans, c'est déjà bien. Ouais. S'il lance 5 ans encore.
Et là, il nous aura épuisé tous les Oscars Midol pendant 5 ans.
Pour un resto dans 3 ans.
Oui, je prends tout de
suite. Non, Denis, arrête.
Pas 3 ans, j'ai dit 4 ans. 29, 30 ans.
Et après, il a dit 4-5.
Alors, déjà, on attend le prochain resto pour Ntamack Jalibert. On va pas s'y mettre.
C'est fait, c'est
en février.
En février.
D'accord.
Vous avez entendu, hein, vous écoutez ce podcast, vous le téléchargez, vous suivez cette aventure depuis des semaines. Février, on peut.
Février,
on peut. Je fais une grève
de la fin d'ici là. Nous écoute, qu'il nous fasse un prix, hein, surtout.
Oui, ça, parce qu'on n'a pas les moyens du stade tout le
temps. Je paye l'entrée, Denis, tu payes les boissons.
Tu
t'en tires bien.
Dupont et le Stade Toulousain qui ont donc fait honneur à leur statut de champion d'Europe en allant battre Cardiff chez lui. Équipe galloise décimée par le Covid, Wilfried, mais qui, malgré les absence a étouffé pour présenter une équipe. Bon, un peu de briques et de brocs, mais quand même, ils étaient là sur le terrain. C'est déjà,
franchement, on peut les applaudir, ces Gallois, parce qu'il y en avait 32 qui étaient à l'isolement, qui avaient été en Afrique du Sud pour jouer la United Rugby Championship. Une bonne idée quand il y a le variant Omicron qui sort. Ils ont été bloqués, ils sont revenus bon an mal an à l'isolement. Ils avaient quelques blessés. Je te disais, 40 joueurs absents, en fait. Donc, ils ont une équipe un peu B qui joue le championnat domestique. Des jeunes, ils avaient 4 internationaux et ils ont perdu largement, mais ils ont donné du fil à retordre en première mi-temps au Stade Toulousain. Et imaginez une équipe française à qui ce serait arrivé. On a les espoirs derrière, ça aurait été très très difficile. Et donc on peut les applaudir quand même, parce qu'ils se sont envoyés.
Oui, tu as raison. Et en même temps, c'est quand même dangereux.
De quoi?
Mais il n'y a pas que des professionnels, on a entendu. Donc c'est quand même un rugby quand même qui tape. quand tu as des joueurs qui ne sont pas habitués à ce niveau-là, c'est, je sais pas, il y a un danger, il me semble. Mais bon.
Toulouse vainqueur. Ah oui, tu veux, quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non,
non, non.
C'est bon. Toulouse, donc vainqueur à l'extérieur et avec le bonus, tout comme le Racing qui a retrouvé du talent et de l'envie.
On a bien fait de dire qu'ils n'étaient pas au fond du soir.
Oui,
bah,
tu vois, au moins, on les a titillés. Ouais. Ils sont révoltés.
Ils ont été très bons.
Ils sont donc allés s'imposer à Northampton. Et puis, on signera aussi la victoire de La Rochelle à De Flandre aux dépens de Glasgow. Quant aux autres, les autres, bah, c'est pas fameux. Le Stade français a été balayé par les Irlandais du Connacht. Montpellier lessivé par Exeter. L'UBB battu chez lui par Leicester. Sans oublier Cas défait par les Harlequins. C'est Clermont étrié à Michelin par l'Ulster. Ça fait 3 victoires pour 5 défaites. Pas terrible le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? C'est un coup de mou, nos clubs n'ont plus envie de la
Coupe d'Europe. Non, il y a des matchs très différents. Montpellier avait fait tourner son effectif et la défaite à Exeter. Ils ont tenu un peu de temps.
Avec Exeter, c'est très très fort.
Donc ils font tourner leur effectif. Tu
c'est surprenant.
Oui, ça veut dire qu'ils lâchent la Coupe d'Europe.
Mais oui, ils vont peut-être encore plus la lâcher parce qu'il y a des cas de Covid à Montpellier et le match contre le Leinster est incertain ce week-end. Et Montpellier, c'était un parti pris aussi, c'est qu'il y a des internationaux qui doivent être mis au repos à certains moments. Ils ont voulu redonner du temps de jeu à des joueurs comme Galtier,
Girado, qu'ils n'ont pas l'effectif pour les deux tableaux,
etc. Et leur priorité, clairement, c'est le top 14 pour les Héraultais. Après, le Stade français qui perd au Connacht, franchement, c'était le Stade français.
Que n'a-t-on pas dit sur les Castrés qui faisaient des impasses il y a quelques années?
Je suis mille fois d'accord.
Mais voilà, aujourd'hui, Castres n'est plus le seul à faire la passe sur la Coupe d'Europe.
Les Castres qui ont failli gagner,
qui devaient gagner parce qu'ils se font enfler à la fin. Une pénalité qui n'est pas sifflée par l'arbitre qui aurait mérité, ça a valu une réaction.
Ils étaient à deux doigts de gagner, c'est vrai.
De Thomas Cambezou qui était salé.
Mais la vraie contre-performance, c'est l'UBB. Hein. C'est qui est tombé d'eau très haut contre le leader du championnat anglais, contre Leicester.
Là aussi,
et perdre à domicile.
C'est pas perdu parce que.
C'est pas perdu, mais.
Non, c'est pas perdu, mais
la formule de la Coupe d'Europe,
alors,
elle est
c'est pas perdu.
Que...
On nous dit depuis des semaines que t'as pas le droit à une défaite.
Non, mais
c'est en Coupe d'Europe qui pue à la
maison. C'est pas comme avant.
C'est pas perdu.
Non, mais c'est pas comme avant.
Si tu gagnes deux matchs, je pense que tu passes.
Voilà, deux matchs, tu passes.
C'est les 8 premiers qui sont qualifiés sur une poule de 12. Donc, avec les 4 Covid, il y a des clubs qui vont perdre des matchs. Donc, comme le disait Broncan, après le match, un point de bonus, ça les maintient en vie. Bon,
après, moi,
ce week-end, mais...
vu la physionomie du match des Bordel et Béglis, je comprends pas que tu vas pas chercher le match nul. Perdre chez soi, quand même, c'est une défaite. Donc, tu fais un match nul, au moins, c'est honorable. Tu vas à Leicester en ayant fait un match nul. Là, tu as perdu. Je ne comprends pas.
Ils avaient en plus, en
étant un peu suffisant, parce que derrière, devant, quand même, Leicester, ça tape. Ils pensaient aller marquer un essai au Leicester en fin de match. Voilà, pour moi, c'est un mauvais choix. Bah, mais...
Quand tu es leader du top 14, que tu te sens fort depuis des semaines, alors voilà, après, on se dit c'est une erreur à la fin, mais il se dit, on doit, devant notre public, on doit aller chercher la victoire.
Wilfried, c'est la Coupe d'Europe, et face à une équipe comme Leinster, tu peux pas jouer comme ça.
Oui, mais je t'explique juste ce qu'ils ont dû penser.
Oui.
C'est ce qu'ils ont dû penser. Je te dis pas que moi, les points, quand ils se présentent, les Harlequins ont failli se faire avoir parce qu'ils tentaient pas les pénalités, prenaient les mêlées, les touches, ils respectaient pas le rugby. Ils auraient dû tenter la pénalité, mais eux, voilà, leur statut fait qu'ils se disent maintenant, on doit battre, même si c'est le leader du championnat anglais, on doit les battre, donc on va en
touche. Oui, mais à l'arrivée, tu perds. Donc c'est une défaite. Pour moi, psychologiquement,
quand tu perds, c'est une défaite, ça.
Non, mais c'est pas ça.
On fait un pari là-dessus. Est-ce que c'est un pari?
T'as très bien compris ce que je disais, Manu.
C'est notre
psychologiquement,
c'est vraiment
fort.
Malaisant, quand même. Analyse, regarde.
Alors, on a parlé de l'UBB. Parlons un petit peu aussi de la SM. Clermont, qui a longtemps joué les premiers rôles dans les compétitions européennes. On rappelle, hein, 3 finales de Champions Cup, toutes perdues, mais quand même 3 disputées. Ça et puis aussi, 3 succès en challenge européen. Malheureusement, ce samedi, les Jaunards n'ont vraiment débuté leur match qu'à la mi-temps. Et dans cette compétition, ça ne pardonne pas. Écoutez la réaction quelque peu dépitée d'Arthur Ituria, le capitaine clermontois.
C'est pas évident de commencer en faisant autant de fautes. On se le dit, on se le répète dans la semaine que c'est une autre compétition, que c'est quelque part un peu plus dur. On n'était pas forcément tous prêts, je pense, à ce niveau-là. Et c'est compliqué de sortir la tête de l'eau dans les moments comme ça. On s'en sort un petit peu sur la fin et on a une belle seconde mi-temps, heureusement. Mais c'est dommage parce que c'était, je pense, évitable. Je pense qu'on n'a pas tous été au niveau où il fallait qu'on soit ce soir.
Pas tous au niveau, nous dit Turia. Privé, il faut quand même le préciser, de Parra, de Lopez, de Moala, les jeunes pousses clairement.
Ils ont un gros effectif. Normalement, l'effectif de Clermont devrait leur permettre d'enchaîner.
Ils ont un gros effectif. Est-ce que c'est ça la question que je me pose, en fait.
Moi, je pense. Mais bon, après, la preuve. Moi, je pense que le top 14 laisse des traces. C'est d'enchaîner du top 14 à la Coupe d'Europe où on monte d'un niveau encore. On l'a vu avec La Rochelle qui était fatiguée, qui a laissé des plumes dans le top 14.
Non, mais ça fait beaucoup de fatigué quand même.
Oui,
là, tu vois,
mais regarde Castres.
Après,
même Stade français. Tu peux pas. Ils prennent 30 points au Connard. Je sais pas moi.
Ils ont tourné en plus.
Oui, mais ils ont une belle équipe quand même.
Bah oui, bien sûr.
Voilà, donc.
Le Connard, c'est pas Leinster.
Ouais, en plus. Et l'Ulster, c'est pas non plus Exeter et tout ça, même s'ils ont un collectif très, très rodé. Wilfried, tu voulais ajouter un mot? Oui, c'est vrai que, bah, que Clermont, c'était considéré comme un grand d'Europe quand même pendant
mais
des
voilà,
années.
Mais voilà, Clermont, on est de 2010 à 2015, se casse les dents voilà, sur Toulon notamment, et quand même était à chaque départ de saison de Coupe d'Europe un favori pour le titre final. Et c'est plus le cas. Donc il y a toujours des changements de génération. À Toulouse, ils l'ont vécu ici il y a quelques années. En 2000, après Guinoves, entre 2015 et 2017, avant qu'ils se remettent à tête à l'endroit. Et c'est peut-être ce qui arrive à Clermont en ce moment.
Mm-hmm. L'ASM, donc quasiment éliminé de la course à l'Europe,
quasiment.
Même si vous me dites que c'est pas encore fini. D'ailleurs, Ituria pense qu'ils peuvent aller faire un coup à Sail la semaine prochaine. En championnat, c'est pas non plus extraordinaire. Ils sont dans les clous pour l'instant, 6e. Mais tout ça est un peu poussif. On attendait beaucoup en Auvergne de l'arrivée de Jono Gibbs. Pour l'instant, Jeff, les supporters des Jaunards restent sur leur faim. Ils sont pas les seuls.
Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'y voir clair en Auvergne depuis quelques semaines. En coulisses, ça bouge, sur le terrain, ça tâtonne. Sportivement, tu l'as dit, l'ASM est dans les clous, hein, puisque après 12 journées, les hommes de Gibbs sont 7e, à égalité de points à Castres qui est 6e, donc tout est encore jouable, avec 6 victoires et autant de défaites depuis le début de saison. En revanche, en Coupe d'Europe, Arthur Ituria et ses partenaires se sont ratés d'entrée. C'est la 4e défaite européenne consécutive à domicile pour Clermont. Franchement, Clermont qui ne fait plus peur au niveau international. Il est loin où le Stade Marcel Michelin faisait vraiment figure de place forte internationale. Tu le disais, ils sont triple finaliste malheureux de la compétition, les Auvergnats. Et aussi, on rappelle qu'en coulisses, l'arrivée de Jono Gibbs, pour l'instant, est assez mitigée. Le départ de Franck Azema s'est fait dans un certain fracas. Et malheureusement pour eux, Clermont, ce n'est pas terminé. Morgan Parra s'en ira en fin de saison. Et comme on l'avait révélé il y a quelques jours, il va rejoindre le Stade français. Camille Lopez, lui aussi, a demandé partir direction Bayonne, même si rien n'est encore officiel. Et deux jeunes en plus s'interrogent. C'est ce qu'indiquait nos confrères du rugby Rama aujourd'hui, du middle. Tani Vili et Falatea qui sont en contact avec l'Union Bordeaux-Bègles. Enfin, le manager sportif et logistique Neil McIlroy a confirmé hier qu'il allait partir. Vous l'aurez compris, pour l'instant, il y a pas mal d'instabilité et beaucoup nous disent que la saison prochaine sera peut-être encore plus compliquée pour Clermont, qui est limité en plus par le salary cap.
Ça sent un peu la fin de règne, hein, Denis, Manu, qui veut prendre la parole là-dessus?
Ouais, enfin,
ou Wilfried.
Ouais, non, c'est que je. Non, parce que j'avais noté, il parle de Lopez et de Parra, ils ont 33 ans. Slimani a 33 ans, Fritzli a 33 ans, Fofana a 34 ans. C'est des figures, quoi, de cette équipe. Et derrière, tu as Vialard, le milieu qui a 21 ans, Bibi Biwizou, le pilier qui a 20 ans, et peut-être qu'ils vont perdre Falatea qui a 24 et Vili qui a 21 ans.
Le pire, c'est pas fait, mais Vili, s'il part, ça serait quand même. Une grosse tuile pour eux.
Et il y a du monde en
parce
fin
que
de contrat.
C'est un garçon qui vient de Brive, ils ont beaucoup compté sur ce garçon-là, il est en train de d'exploser. S'ils le perdent, c'est là par contre, je serais inquiet pour eux. Vous pensez qu'ils sont capables d'effectuer une mue comme l'a fait le Stade Toulousain après justement ces années glorieuses? Est-ce que Clermont peut a les mêmes capacités pour se remettre la tête à l'endroit d'ici une ou deux saisons?
Moi, je suis un peu sceptique honnêtement. Il y a possiblement Didier Retière qui va arriver comme directeur sportif dans ce club. C'est vrai qu'il pourra faire un bon boulot, mais non, dans ce domaine, mais ça va prendre du temps, ça va pas se régler en une saison.
Ça. Ils peuvent le faire, mais en combien de temps?
Et la saison prochaine, ce que je vous dis, c'est que les gens que j'ai au téléphone là-dessus, sur ces dossiers-là, sont assez sceptiques sur quelle va être l'équipe de Clermont la saison prochaine. C'est assez compliqué à savoir, et qu'il y a un président Guillon, Jean-Michel Guillon si je ne me trompe pas sur son prénom, qui est là et qui suscite pas mal de critiques par les supporters, parce qu'il ne voit rien arriver comme recrue potentielle en plus et comme ambition pour la saison prochaine. Et c'est vrai que c'est un certain flou aujourd'hui.
Oui, et puis Parra qui s'en va, c'est quand même un signe fort, quoi. C'est un symbole qui s'en va du club. C'était quand même le papa poule, voilà, je trouve que...
Oui, mais il n'est pas éternel après.
Non, mais bien sûr, non, mais c'est une figure quand même emblématique.
Oui.
Donc c'est,
mais il faut savoir les faire partir au bon moment. Parce que quand je te parlais de Toulouse, il y avait les Dussautoir, les Albacete qui avaient tout gagné. Et à un moment, ils gagnaient moins.
Après, Clermont n'était pas qualifié pour la Champions Cup l'année dernière.
Non.
Ils reviennent cette année, pour le moment ça part mal. En championnat, c'est mi-raisin, comme vous l'avez dit. Il ne va pas falloir qu'ils se ratent. Il faut rapidement que notre ami Jono Gibbs s'intègre et qu'il réussisse. Il n'aura pas le temps, parce que l'année prochaine, avec tout ce que vous venez d'annoncer, et vous avez parfaitement raison, entre les départs des jeunes et des anciens, il va se retrouver dans un cercle qui va être très très difficile à gérer. De fait, il a besoin de réussite d'entrée. Sinon, attention au tourment du côté de Clermont.
Et ce qui fait mal aux supporters, Christophe, c'est quand tu dis Clermont est dans les clous et 7ème en top 14.
Ouais, bah, ouais mais ça peut aller vite.
Dans les trois premiers. Non, mais c'était. Non, mais il y a un moment que Clermont est plus dans les trois premiers.
Dans les
quoi.
Deux sens.
Ou dans les deux premiers.
On est d'accord.
Ils luttaient pour les deux premières places avec le Stade Toulousain pendant des années. Effectivement, là, ils sont plus vraiment dans le coup. Tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique French Cancan. La Coupe du Monde de rugby, bah oui, on en parle comme toutes les semaines, c'est donc dans 21 mois maintenant, ça se rapproche à grands pas. On en sait un peu plus, Wilfried, sur le programme qui attend les Bleus d'ici leur rendez-vous de septembre 2023 avec les Blacks. On connaît quasiment tous les adversaires.
Effectivement, on l'a pris dans le milieu olympique, parce qu'il n'y a pas que Jeff qui prend son téléphone, qui fait « Allô Clermont, allô, oui, qu'est-ce qui se passe ?»
Qu'est-ce que j'entends ?
Qu'est-ce que j'entends ? Évidemment, aujourd'hui, dans le jaune, comme on dit, représenté par Manu Massicard aujourd'hui. Et ça commence donc dès l'été prochain, été 2022, avec deux tests au Japon, les 2 et 9 juillet. Deux matchs qui devraient vraisemblablement se jouer sans les finalistes du top 14. Mais bon, c'est courant ça, hein, on l'a vu l'été dernier en Australie. Ça, voilà, avec une large revue d'effectifs, qui était plus large encore en Australie. Le 15 de France peut être compétitif. Donc voyage au Japon. Ensuite, ça nous mène à l'automne 2022. Voyage dans le temps, messieurs, dans Entre les poteaux, avec trois matchs au programme. Un contre les champions du monde sud-africains au Stade de France. C'est la dernière très grande nation que les Bleus de Galtier n'ont pas encore joué. Donc rendez-vous très important à cocher sur la route de la Coupe du Monde. L'autre match, l'automne prochain, donc face à l'Australie, le dernier, qui devrait se jouer à Toulouse contre une nation du tiers 2. Alors moi, j'avais entendu parler du Japon.
Moi aussi.
Notamment du fait que le Japon aura deux matchs à Toulouse pendant la Coupe du Monde. Mais ça reste à confirmer. Et puis enfin, évidemment, après le tournoi 2023, Denis, tu te projettes été 2023, les matchs de préparation à la Coupe du Monde pour les Bleus en août 2023, ils seraient au nombre de 4, les Fidji à Nantes, puis une double confrontation face à l'Écosse, comme en 2019, avant la Coupe du Monde au Japon, un match à Édimbourg et un autre dans le sud de la France. En 2019, c'était à Nice, on veut bien y retourner, et dernier match qui sera contre l'Australie, ce qui ferait des Australiens la nation hors Europe la plus affrontée lors du mandat Galtier. Donc 4 matchs de préparation à la Coupe du Monde en France avant le match d'ouverture face aux Blacks.
On ne va pas se blesser. Sauf quand tu joues les Fidji.
Tu parles pour toi ?
Le quatrième, et ça fait beaucoup quand même, non ?
4, ça me semble énorme, mais bon, après...
Ouais, il y en avait eu 3 en 2019.
Ouais, 3, ouais. Ouais.
Bon, après, bon, sachant que tu viens du Covid et que tu as moins joué, de fait, je pense que Galtier a coché ça et il voudra arriver très très près à la Coupe du Monde. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas.
D'accord. C'est un programme qui vous semble équilibré. On va affronter tout le monde, sauf les Blacks, qu'on vient de jouer. Voilà, c'est bien quand même.
Tester aux champions du monde en automne, l'automne 2022, je trouve que c'est bien.
Celui-là est important. Ouais.
Très bien. Les Bleus, qui dans la dernière ligne droite qui les mènera à la Coupe du Monde, devront faire sans leur cadre douillet de Marcoussi. Ça, je l'ai appris, je ne savais pas. Ils devront quitter au plus tard Marcoussi le 1er septembre. C'est quoi ? C'est dans un souci de stricte égalité pour tout le monde ?
C'est pas une obligation de voir le rugby, ça ?
Moi, je crois que c'est une obligation.
D'accord. Ouais. Pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
C'était oui, pareil en Angleterre.
Non, mais tu n'as pas le droit d'être un peu au centre, en fait. Je crois que c'est ça l'histoire.
Chaque nation se voit... Mais pourquoi c'est pas normal ? Chaque nation se voit attribuer des proposés. Les managers ont d'ailleurs été réunis. Je ne sais pas quel était le manager français. C'était Raphaël Ibanez qui était présent après la victoire contre la. Je crois que c'était la semaine qui suivait les Blacks.
Mais quand t'es dans ton pays, pourquoi je comprends, tu profites pas de tes installations ? C'est un truc.
Parce que tu mets tout le monde à pied d'égalité.
Ouais, d'accord. Bon.
On va aller à Clairefontaine et puis on n'en parle pas.
On retour à Château-Ricard, ça pourrait être pas mal, ça.
C'est bien, ça c'est bien, ça.
Quand on buvait l'apéro sur le comptoir avec les gens de l'équipe de France.
Non, dans les chambres. Dans les chambres.
Ah, moi, je l'ai fait dans les chambres. Benoît, je sortais le Nagra, donc l'enregistreur, et on était là et on buvait un petit Ricard.
C'est Benoît qui t'accueillait.
Exactement.
Et après, tu les assassinais à l'antenne.
Bon, pas du tout. À l'époque, on ne les assassinait pas. On n'était pas des tueurs comme vous, messieurs. On était gentils avec les joueurs de l'équipe de France.
Mais nous, on les aime.
C'est ça, ouais. Après, ce que tu balances sur eux. Terrible.
Fabien, je t'aime.
Merci beaucoup les potos.
Et là, il répond moi aussi.
Merci, à la semaine prochaine, c'est ça ?
Normalement, ouais.
Normalement, oui.
T'es encore là la semaine prochaine ? Je crois qu'on sera tous...
Non, pas moi.
Manu, t'es là ?
Ouais, je suis là, bien sûr.
Voilà, il y a les vrais, puis il y a ceux qui partent en vacances pendant 6 mois.
Moi, je suis au Pays Basque.
Ça
sera l'équipe B la semaine prochaine.
Paturo, Templier, on les revoit pas avant le tournoi. Vous avez compris l'histoire ? Elle est belle, la vie. Elle est trop belle, la vie. Salut les potos, bonne semaine.
Ciao,
prochain. Ciao.
Ciao les amis.